Je le dis peut-être chaque fois, mais heureux de me retrouver avec vous. Je vois que c'est partagé, merci. On va ouvrir la parole de Dieu et nous arrêter quelques instants sur un verset qui nous amènera à méditer, à réfléchir, à comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. Parce qu'il est vrai que Dieu est amour. Il est vrai que Dieu, dans sa volonté, nous allons en parler un petit peu, Dieu veut sauver toute créature humaine. C'est pour cela d'ailleurs que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie sur la croix, pour que par lui et en lui, nous soyons pardonnés de nos péchés, lavés de toute iniquité, libérés de toute chaîne qui peut exister sur cette terre et qui nous étreignent, et qu'en même temps, il nous ouvre le chemin qui mène au ciel, c'est-à-dire, en même temps, il nous réconcilie avec Dieu. Mais je crois que la parole de Dieu est aussi claire sur des sujets qui sont importants, parce que, je vous le dis en introduction, si nous ne veillons pas, si nous n'accomplissons pas ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, contrairement à ce que certains pensent, tout le monde n'ira pas au ciel ou au paradis, comme vous voulez. Alors, dans cette réflexion, je vais lire avec vous un verset. Si vous avez la Bible, vous pourrez le suivre, ou alors peut-être apparaîtra-t-il sur l'écran. Mais un verset qui se trouve dans Hébreux au chapitre 4, verset 13. Un verset, puis nous citerons plusieurs versets au cours de cette méditation cet après-midi. Alors je laisse chercher pour ceux qui ont avec eux la Bible ou qui suivent ça sur leur iPhone. Voilà. Donc vous avez tous trouvé, je suppose. Écoutez bien ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé ou découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Et ce qui est fort intéressant pour nous en cet après-midi, et ce qu'il ne faut pas cacher justement à l'humanité qui nous entoure, c'est que un jour ou l'autre, dans un temps plus ou moins long, qui appartient à Dieu, mais qui est écrit et consigné, ce temps, nous le connaîtrons tous, c'est comparaître devant Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et en même temps, ce que je voudrais souligner dans votre cœur et dans votre pensée, c'est que les uns et les autres, nous aurons à rendre compte de notre vie ici-bas. Et suivant notre vie, nous serons soit sauvés pour l'éternité, soit perdus. Par contre, la parole de Dieu dit ceci, c'est que seront sauvés ceux qui auront cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui auront vécu suivant l'enseignement de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'acceptent pas, la Bible dit, ils seront perdus pour l'éternité. Alors bien sûr qu'à l'écoute de ces quelques mots, vous pouvez accepter ou réfuter, ne pas être d'accord, mais je crois que ce qui est important pour chacun d'entre nous cet après-midi, et il faut le dire autour de vous, c'est que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Certains vous diront, ce sont des hommes qui l'ont écrit. C'est vrai, ce sont des hommes qui ont écrit, ils ont écrit des lettres, ils ont écrit des expériences. Dieu a permis que tout cela soit protégé et gardé, et c'est, la Bible dit, et elle est parvenue, tout ce qui est écrit est parvenu jusqu'à nous. Mais n'oubliez jamais que la Bible a été écrite sous le couvert de la puissance du Saint-Esprit. Donc tout ce que la Bible consigne et révèle est vérité. C'est bien exprimé quand on lit la Bible, il est écrit « Ta parole », c'est Jésus, le Fils de Dieu qui le dit, « Ta parole est la vérité ». Donc, vous pouvez la contester, mais elle n'est pas contestable. Ou tu y crois et tu acceptes, ou tu refuses et tu sais ce qui t'attend. Par contre, quant à comparaître devant Dieu, laissez-moi vous citer quelques versets à ce sujet. Par exemple, dans Romains chapitre 14, verset 12, il est dit ceci. « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour son voisin. » Ah, je me suis trompé. C'est pour sa voisine. Non, il est écrit, il aura rendre à compte à Dieu pour lui-même. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le ciel. On peut peut-être un petit peu imaginer, mais c'est des choses qui n'arriveront pas. On passe devant Dieu et Dieu va nous parler. Il va nous dire, tu as fait ceci et cela, et nous on va dire, mais attends, lui il a fait aussi. Non, non, non. Chacun pour soi. Je ne sais pas ce que, quand vous lisez ces versets, ce que ça peut résonner dans votre cœur. Rendre compte à Dieu de notre vie. Et déjà on peut se poser la question, est-ce que notre vie, elle est belle? Ou est-ce qu'elle est entachée des choses qui ne correspondent pas avec ce que la Bible enseigne? Si je continue, dans Apocalypse, au chapitre 20, verset 12, il est dit « Je vis les morts ». Donc ça devient un peu plus précis là. « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, entre parenthèses, de Dieu. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie ». Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, c'est-à-dire leurs actes, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, ce qui veut dire que dans le ciel, Dieu tient des livres ouverts. Vous savez, quand j'étais dans les classes lycéennes, moi j'ai fait mes études dans le commerce au départ. Avant, je comptais des choses, maintenant je compte les âmes avec le Seigneur, alléluia, celles qui s'ajoutent. Et on m'avait appris une façon de tenir les comptes d'une manière très rapide. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le commerce, certainement ici, des comptables. On m'avait appris les contentés. Ce n'est pas le contentement, c'est le contenté, c'est-à-dire contenter une barre horizontale, une barre verticale. D'un côté, vous avez crédit, débit, et en bas, il y a écrit solde. Connaissez ce... Non, connaissez pas ça. Alors, d'un côté, on rentrait tout ce qui était crédit. De l'autre côté, pardon, tout ce qui était débit. Et à la fin de l'exercice, il fallait faire le solde. Alors, ou c'était positif, ou c'était négatif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense en moi-même, je ne dis pas que j'ai raison, mais chaque contenté avait un nom dessus, le nom d'une personne ou d'une entreprise, donc il fallait calculer. Je me représente un petit peu le même système avec Dieu. Dieu tient des livres. Je vais dire Dieu tient des contentés. Et sur le contenté cet après-midi, soyez-en sûrs, il y a votre nom et le mien. Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z, Monsieur H, H chez moi. Et puis, continuons l'explication. Au lieu de mettre crédit, débit, on va marquer bon, mauvais. Bon acte, mauvais acte. Tout ce qui est bon ou tout ce que nous aurons fait de bon sur cette terre sera mis dans la colonne bon. Tout ce qui est mauvais, et ne venez pas me dire que vous n'avez jamais été mauvais. Tout ce qui aura été mauvais, désobéissance à la parole de Dieu, sera côté mauvais. Maintenant, je ne sais pas quelle sera la finalité, mais ce que je peux vous dire, si le mauvais est supérieur au bon, on ne rentrera pas au ciel. On sera dans le négatif. Mais si c'est le bon qui prend le dessus sur ce qui est mauvais, alors nous sommes dans le positif et nous rentrerons dans le ciel. Bon, j'ai l'impression d'avoir jeté un froid là. Il y en a qui sont en train de calculer déjà qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais. Waouh! Eh oui! Alors, les murs furent jugés suivant leurs actes, hein, c'est écrit. Hein. Verset 15. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est un lieu où la Bible le décrit comme étant un lieu de grincement de dents et de souffrance. Et pour être en clair, ce lieu, c'est l'enfer. Maintenant, à vous de décider, dès maintenant, si vous voulez aller au ciel, dans le paradis, ou si vous voulez aller en enfer. Si je vous dis cette question simple, mais il y en a qui auront la réponse. Il m'arrive de temps en temps de la poser, mais c'est bien, ça fait comprendre aux gens et à tous, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui sont en train de dire, ah, si j'ai bien compris l'explication de tout à l'heure, il faut faire ce qui est mauvais. Eh bien, je vais vous dire une vérité simple. Pour aller en enfer, il ne faut rien faire. Puisque nous sommes de par nature des natures pécheresses. Donc, dès que je nais, dès que je vois le jour, je suis là sur la terre, tout bébé. On peut dire que c'est un bébé qui est pur, bien sûr, mais je nais avec la graine du péché en moi. Hein? Je vais prendre un exemple. Vous permettez? Merci. Est-ce que parmi nous, si vous avez été parent, et peut-être vous l'êtes ou vous le serez, et vous avez été enfant, donc, si vous avez des parents, vous qui êtes enfant, avez-vous déjà menti à vos parents? Répondez à votre âme et conscience. Je crois que oui. Et vous, parents, avez-vous appris à vos enfants à mentir? Non. Ben, j'ai appris aujourd'hui, enfin, je le savais depuis longtemps, mais qu'un enfant de 3 ans peut déjà mentir. Consciemment ou inconsciemment. Ce qui veut dire que on est avec la graine du péché. Et vous savez ce que dit la Bible? Mis à part les enfants, qu'est-ce que dit la Bible? Les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ils n'iront pas au paradis. Ceux qui exercent le mensonge, ceux qui ne vivent que de mensonges, ceux qui mentent à tour de bras. Vous voyez? Il y a des gens qui mentent à tour de bras. Je connais une affaire là qui n'est pas si vieille que ça. La personne a acheté une voiture, très belle voiture qui lui plaisait. Bon, elle n'était pas neuve, hein, une voiture d'occasion dans un garage qui paraissait sérieux. Et puis la voiture, au bout de 6 mois, elle a commencé à avoir des problèmes. Et puis maintenant, elle ne marche plus, ne fonctionne plus. Alors, elle l'a amenée au garage. Et alors là, ils sont un petit peu en bis-bis. Parce qu'en fait, la personne qui a acheté la voiture, elle n'a pas très fait attention, elle ne savait peut-être même pas. Et il s'avère que, d'ailleurs, c'est mis maintenant en expert juridique, parce qu'il s'avère que la voiture qu'elle a achetée, elle s'est fait embobiner, parce que le kilométrage qui était sur le compteur ne correspondait pas au kilomètre réel. Mais pour en arriver là, il faut que le gars ait menti. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. On ment, alors qu'on ne devrait pas mentir. Mais je vous ai expliqué cela pour vous dire que nous sommes, de par nature, des enfants pécheurs. Et que le pécheur, bibliquement parlant, il ne rentrera pas au ciel. Il est dit, c'est écrit, tous ceux qui ne sont pas trouvés inscrits dans le livre de vie, ils ne seront pas sauvés. Et pour être inscrit sur le livre de vie, que faut-il faire? Parce que là, il faut faire quelque chose. Si pour aller en enfer, il ne faut rien faire, pour aller au ciel, il faut faire quelque chose. Alors déjà, faire les bontés, le monsieur l'a dit. Non, ça c'est, ça accompagne la suite de ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier pour aller au ciel? C'est d'abord croire en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alléluia. Connaissons tous ce verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Il est même ajouté « Toi et toute ta famille ». Alléluia. Mais toi d'abord, vous voyez, c'est bien chacun. Ce n'est pas parce que moi je vais croire en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel que je vais sauver mes enfants, ma famille, quelle qu'elle soit. Il faut que chacun croie, parce que chacun sera jugé. D'accord? Par contre, si je crois, je peux être un bon exemple et entraîner derrière l'exemple que je laisse toute la famille. Ainsi, si je prends un exemple biblique, c'est Noé dans l'Ancien Testament qui a eu de la part de Dieu le conseil et l'ordre de créer ou de construire l'arche de Noé. Vous connaissez tous cette histoire. Il a construit avec l'aide de ses trois fils, les belles-filles, sa femme, ils étaient 8, à construire l'arche de Noé. Et quand on a mesure la masse de ce bateau, le temps qu'il a fallu, il a fallu des années. Mais il nous est dit que lorsque, écoutez bien, lorsque Noé eut accompli, donc aura fait et a fait tout ce que le Seigneur a dit, alors Dieu lui dit, entre dans l'arche, et Dieu ferma la porte, et ils furent sauvés. Il n'a pas fait que croire, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et non seulement il fut sauvé lui, mais parce qu'il a été un exemple auprès de sa famille, ils ont tous cru, tous participé, et ils furent tous sauvés. Amen. Tous sauvés. Tous confiants. Une petite parenthèse entre nous là. Tous confiants en l'arche. Qui dit avoir confiance en l'arche veut dire confiance en Dieu. Pourquoi je dis tous confiance en l'arche et en Dieu? Vous savez pourquoi? Non. Mais je vais vous le dire déjà. Enfin, vous allez me répondre. Il y avait une anomalie dans l'arche ou sur l'arche. Vous la connaissez? La fenêtre en haut. Non. Il y avait une anomalie. Vous ne savez pas? Ben, vous serez venu et vous allez apprendre quelque chose. L'arche n'avait aucun gouvernail. Eh ouais. Alors, quand l'eau a été suffisante, le bateau s'est élevé, ça a monté au-dessus des montagnes. Certains nous disent que ce n'est pas possible, mais la Bible dit au-delà du mont Ararat. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais si l'eau avait dépassé, le bateau serait passé par-dessus. Mais ils ne savent pas lire, parce qu'il est dit que ça commençait à s'assécher. Donc, si ça s'assèche, ça veut dire que le niveau d'eau descend. Vous voyez, des gens qui ne savent pas lire. Et le bateau, ben, il a été dirigé par qui? Par les vents. Et qui a dirigé les vents? Donc, il a été dirigé par Dieu. Et ils sont arrivés un jour, pof, le bateau, poum, sur le sommet du mont Ararat. Et au bout de quelques jours, eh bien, ils ont pu descendre et reprendre la vie que Dieu avait donnée à l'homme, une vie communautaire. Voilà. Il a cru, il a fait, il fut sauvé et il fut béni. Je suis heureux de vous dire que dans le ciel, il y a un homme qui s'appelle Noé. Alléluia. Mais réfléchissez, si je crois, je ferai. Si je veux être sauvé, c'est-à-dire je ferai, j'obéirai à la parole de Dieu. Je reçois Jésus comme mon sauveur, je veux vivre avec lui à l'écoute de sa parole, je veux marcher tous les jours avec lui, je veux lui faire confiance, je veux qu'il me conduise par le Saint-Esprit qu'il a promis et qu'il donne à ceux qui se convertissent réellement. Et un jour, je rentrerai dans la vie éternelle. Car savez-vous qu'il est écrit dans la Bible, je vous le cite, c'est Jésus qui l'a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Je ne peux me réjouir que si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je peux me réjouir et je me réjouis de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Un jour, comme dit Job, mes yeux le verront et pas ceux d'un autre. Alléluia. Et ça, c'est possible à chacun d'entre nous. Si nous nous tournons vers lui et si nous voulons faire sa volonté, si nous voulons vivre dans son amour, nous avons chanté son amour et son amour est réel, il est vrai. Dieu est amour, c'est écrit là derrière. Et c'est vrai, Dieu est amour et dans son amour, il veut vous sauver. Il veut vous pardonner. Il veut faire de vous une vie nouvelle, une personne nouvelle. Changez dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actes, dans vos sentiments, car nous aurons tous à rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre, du comment nous avons vécu. Dieu est un Dieu qui pardonne. N'allons pas dire, mais celui-là, il fait pire que moi. C'est chacun. Ça ne vous regarde pas comment vit Madame X ou comment vit Monsieur Y, comment il se comporte, ce qu'il fait. Ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous regarde, qui nous regarde, c'est d'être vraiment comme Dieu le veut. Et non pas comme Madame X ou Monsieur Y. Chacun. Amen. Et chacun doit vivre dans la volonté de Dieu et de vivre dans son amour. C'est cela qui est merveilleux. Jésus est venu exprès sur la terre pour nous prouver l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et ce que Dieu veut faire, mes frères et sœurs et amis qui êtes présents, c'est nous changer, nous transformer, de faire de nous des gens meilleurs. Je n'ai pas osé faire ce que des fois je faisais au refuge, faire de nous des gens bons. Non, pardon, des bonnes gens. Et ne venez pas dire « mais je suis bon ». Ce n'est pas à vous de dire « je suis bon ». C'est à Dieu de le dire si vous êtes bon. Parce que vous et moi, aussi bons que nous soyons, nous avons des progrès à faire. Amen. Oui, d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Des progrès à faire. Vous doutez de faire des progrès ? Bon, permettez-moi encore un petit truc, une petite pensée. Je vais vous poser, c'est pas que je sois indiscret, c'est pour nous mettre devant la réalité que nous avons tous des progrès à faire. Est-ce que vous êtes doué de patience ? Êtes-vous doué de patience ? Et ne répondez pas oui, hein, parce que... Même une mouche, ça vous énerve. Je me trompe ou pas? Bon, la mouche, c'est bon. Et le moustique, quand il se manifeste que vous êtes en train de dormir et qu'il vient et qu'il tourne la nuit, là, et de ce coup, un moustique, pouch! C'est des exemples simples que je prends. Je ne vais pas rentrer dans des exemples encore plus grands parce que des fois, on manque de patience entre nous, entre humains. Tenez, je vais vous citer ce qu'un jour un homme m'a dit. Et là, je sens que vous allez me dire, maintenant, monsieur Asquette, ça suffit, restez chez vous. Et un homme me disait ceci, pour qu'un homme soit ou une femme soit changé et que vous voyez son véritable caractère, mettez-le au volant ou mettez-la au volant d'une voiture. Dites pas oui, là, hein? La semaine dernière, c'était quoi déjà? La semaine de l'amabilité au volant. Mon œil, oui. Il y en a qui l'ont peut-être respecté, mais moi j'en ai vu qui ne l'ont pas respecté. Des mots. Ce n'est pas des mots qu'on veut, c'est la réalité. Soyez, dit la Bible, doués de patience. Ouais. Et Dieu veut le faire. Parce que Dieu nous aime et parce que Dieu veut nous sauver. La volonté de Dieu, c'est pour cela que Jésus est venu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Les femmes aussi. Je précise parce que le texte dit tous les hommes, mais c'est l'humanité qui est sauvée. Enfin, l'humanité. Ceux qui croient, ceux qui écoutent la Bible, ceux qui font ce que la Bible dit, ceux qui demeurent fidèles à la parole de Dieu. Alors ceux-là seront sauvés. Oh, vous savez, Jésus aime transformer les vies. Hein. Dans un seul exemple avant de conclure, dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible que vous pouvez relire, c'est dans l'évangile de Luc. Il s'appelle Zachée. Zachée. Quand j'étais petit, je chantais à l'école du dimanche. Zachée était un homme petit, pas plus haut que trois pommes, et, parce qu'il était petit. Et sa petitesse physique lui a quand même un peu desservi. Mais ce Zachée-là, un jour, a entendu que dans sa ville venait Jésus. Aujourd'hui, Jésus est avec nous. On n'est pas à Jéricho, la ville de Zachée, mais on est à Annecy. Eh bien, Jésus est là. Il est là, présent. Et quand Zachée a appris que Jésus était dans sa ville, alors il a eu un désir profond, c'était de voir Jésus. Voir Jésus. Alors il est sorti de sa maison, il est allé vers le passage où devait avancer Jésus, mais il était de petite taille. Et puis, il n'y avait pas que sa taille qui le desservait, il y avait aussi sa profession, percepteur d'impôts. On les aime bien, ces gens-là, quand ils ne nous prennent pas les sous. Qu'est-ce que vous dites quand vous faites le chèque? Ou quand vous voyez le prélèvement automatique qui arrive? Aimez-les, parce qu'eux, ils vous aiment. Enfin, je ne sais pas s'ils vous aiment, vous ou votre argent, mais ils vous aiment. Zachée était comme ça, petit et percepteur d'impôts. Et quand il est arrivé, il y avait déjà un monde fou sur le passage de Jésus. Alors, il ne pouvait pas passer. Et quand il a... Là, j'imagine un petit peu quand il devait demander pardon. « Eh oh, Zachée, va-t'en. Avec tout ce que tu fais, tout ce que tu nous prends, va-t'en. » Mais petit, avec... une intelligence. Et il a dit, si je ne peux pas passer au travers la foule, je sais ce que je vais faire. Je vais monter sur un sycomore. Il a couru devant, il a vu un sycomore sur le passage de Jésus, il est monté, il s'est installé, et le plus petit était à la meilleure des places. Mais Zachée ne savait pas ce qui allait se passer. Lui, il était venu voir Jésus, c'était son désir, là il le voyait, de plus, il le voyait s'approcher de plus en plus. Il était content dans son cœur, je vois Jésus. Il avait osé monter sur un arbre pour voir Jésus. C'est bien, mais il ne savait pas ce qui allait se passer. Parce que quand Jésus est arrivé, il s'est arrêté sur l'arbre, il a levé les yeux et il vit Zachée qui était en haut. Mais je suis sûr que Jésus savait qu'il était là-haut. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Et il a levé les yeux et il a dit quelque chose à Zachée. Zachée! Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui. Retenez bien ça, aujourd'hui, dans ta maison. C'est-à-dire, en fait, dans ta vie. Ah là là. Je crois aujourd'hui que Jésus est au milieu de nous. Et je me pose une question. Je vais vous poser la question. Je vais essayer d'être court. Sur quel arbre vous êtes? Zachée, en attendant Jésus, était sur son sycomore. Et il a entendu Jésus lui dire, « Descends de ton arbre, hâte-toi, il faut que je donne. » C'est bien. Donc, pour recevoir Jésus, il faut descendre de son arbre. Vous m'avez suivi, là? D'où ma question, sur quel arbre êtes-vous? Car le salut, le pardon de vos péchés ne peut vous être accordé que si vous descendez de votre arbre. Suivez-vous, j'ai trouvé trois noms d'arbres. Peut-être que vous pourrez en trouver d'autres. Je vois qu'il y en a qui cherchent et disent, c'est quoi? L'acacia, c'est quel arbre? Le platane, le figuier. Remarquez qu'un jour, il y en a un qui a trouvé le salut parce qu'il était assis sous le figuier. Nathanaël, qui est devenu disciple de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nathanaël à Jésus, quand il l'a vu? Il a dit, tu es le Fils de Dieu, je crois. Ouais. Nathanaël avait la connaissance des Saintes Écritures. Pourtant, quelques instants auparavant, quand vous lirez le texte à la maison, il a dit à celui, Philippe, qui est venu le chercher, il lui a dit, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Mais quand il a vu Jésus, il a dit, je crois. Jésus est là. Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez qu'il est votre sauveur? Oui, peut-être vous hésitez à dire oui parce que vous êtes encore sur votre arbre. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Alors, le premier que j'ai noté, c'est l'athéisme. L'arbre athéisme. Qu'est-ce que l'athéisme? L'athéisme, c'est une personne athée qui ne croit en rien et refuse tout en bloc et qui met en doute tout ce qui concerne le divin. Il est athée. Il ne croit pas. C'est la personne qui va vous dire qu'elle ne croit ni en Dieu, ni en diable. Eh bien, je suis obligé de vous dire en toute vérité qu'il y a un Dieu et qu'il y a un diable. Et qu'ils sont toujours en guerre. Et celui qui fait la guerre, c'est le diable qui fait la guerre à Dieu. Quand je dis faire la guerre à Dieu, c'est que déjà dans le jardin d'Éden, il s'est opposé à Dieu. C'est que quand Jésus est né, il a voulu faire tomber Jésus en le tentant par trois fois. Mais par trois fois, il fut réfuté, ses paroles. Jésus a répondu toujours avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas Jésus qui a fui, c'est le diable qui s'est enfui. Et Jésus a, en montant sur le bois de la croix, crucifié, a fait que le diable a été mis en déroute. Et aujourd'hui, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. De tous les mauvais agissements que nous aurions pu faire, nous en sommes parfaitement délivrés en Jésus-Christ parce qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu toutes les autorités, toutes les puissances mauvaises, toutes les puissances diaboliques. Il les a vaincues à la croix et je dis gloire à Dieu. Alléluia. Et athée celui qui ne veut pas croire. Mais pour celui qui croit, eh bien, il y a cette vérité dans 2 Timothée 2,4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le premier arbre. Si tu es sur cet arbre, je t'invite, pas moi, mais le Seigneur, à descendre et à croire en lui. Le deuxième arbre, il se trouve un peu plus celui-là. On trouve dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest et dans le monde entier. L'orgueil. L'arbre qui s'appelle orgueil. Eh oui. Personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui se croit supérieure et qui dit, je n'ai besoin de personne. Je m'en sortirai tout seul ou toute seule. Oui, peut-être sur la terre, mais dans le ciel, tu as besoin de quelqu'un. Parce que sans Jésus, point de salut. C'est clair. Ton orgueil te servira à rien. Je me souviens de cet homme à qui j'avais rendu témoignage. Et je lui avais parlé de Jésus. Et justement, je lui parlais du salut, etc. Et puis d'un seul coup, il m'a regardé et dit, Monsieur le pasteur, ne vous inquiétez pas. Lorsque je comparaîtrai devant le grand juge, je m'arrangerai avec lui. Celui-là, il était rempli d'orgueil. Après cela, je lui ai quand même indiqué le chemin, mais je ne l'ai plus jamais revu. Que Dieu fasse qu'il se soit repenti et sauvé pour l'éternité. Mais que dit la Bible au sujet de l'orgueil? Parce que l'orgueil, c'est ce qui nous mène à la perte. Il est dit dans Proverbes chapitre 16, pardon, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, c'est-à-dire l'orgueil vis-à-vis de Dieu, de ne pas croire en lui, de lui résister, de dire « je me débrouillerai bien », c'est un orgueil malsain et il vous conduira à la mort. Non pas physique, parce que nous devons passer, que nous soyons bons ou mauvais, nous devons y passer à la mort, à moins que le Seigneur revienne chercher tous ceux qui sont bons pour les amener avec lui dans le ciel. Mais autrement, la mort, tout le monde la connaîtra. Mais ce qu'il y a de triste, c'est que les uns seront sauvés et ceux-là seront heureux pour la vie éternelle, et les autres seront jetés dans les temps de feu pour une mort éternelle. Ça, il faut en prendre conscience. Une mort éternelle. Une mort dans les souffrances. Une mort où personne ne sera heureux. Par contre, ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont ressuscités et rentreront dans le ciel avec le Seigneur, il est dit que nous serons des gens heureux. Heureux déjà sur la terre parce que Jésus sera notre maître et notre sauveur, mais heureux parce que nous serons avec lui pour toujours dans le ciel. Alléluia. Et puis, dernier arbre que j'ai trouvé, celui-là aussi il est partout. Il est sous toutes les formes. Religion. L'arbre religion. Je pourrais dire aussi l'arbre religieux. Vous savez, quand vous parlez avec des gens, ça m'est arrivé, certainement vous aussi, et de temps en temps, j'ai cette réponse. Moi, monsieur, j'ai ma religion. J'ai un scoop pour vous. Je vous le donne gratuitement. La religion n'a jamais sauvé personne. C'est de la poudre aux yeux. Quand on vous dit, ou quand la personne pense, moi je suis de telle religion, ou de tel principe religieux, oula, c'est pas ça qui vous sauve, hein. Je l'ai compris un jour, moi. Mes parents l'ont compris avant moi, pour tout vous dire, et sans critique, je dis bien sans critique, je vous place devant la réalité, parce que c'est la parole de Dieu qui dit que le seul qui sauve, c'est Jésus, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de religion qui sauve. Mais un jour, mes parents, qui étaient d'obédience catholique, ont rencontré Jésus comme leur sauveur. Comment l'ont-ils rencontré? Eh bien, en allant à une réunion semblable à celle-ci. Parce que j'avais un de mes frères qui était atteint d'un mal incurable. Il avait 8 grammes d'albumine, autant de, si je me rappelle bien parce que ça remonte loin, 8 grammes d'urée. Il avait une fente dans chaque rein, il urinait le sang, donc il avait 8 ans. Vous voyez, ça remonte loin. Hein. Alors, il est arrivé un jour que, à ce moment-là, on habitait à Toulon, et il fallait aller, mes parents, aller jusqu'à Marseille voir le spécialiste qui était à Marseille. Et un jour, ils sont revenus dans la tristesse et dans la peine parce que le diagnostic final était arrivé et il avait dit à mes parents, cet homme, encore un mois de vie et il ne sera plus là. C'était la tristesse qui était rentrée dans la maison en plus de la maladie. Et puis un jour, ma maman faisait les commissions dans la ville et puis, eh bien, sous la tristesse, elle s'est mise à pleurer. Et voilà qu'une dame, au bout d'un moment, s'est approchée d'elle, elle devait prendre le car, elle était à l'arrêt du car. Elle s'est approchée de ma mère et lui a dit, mais madame, je vous vois en pleurs, qu'est-ce qui vous avez, quelle est votre tristesse? Et mon maman lui a expliqué le cas, les souffrances morales, physiques, etc. qui régnaient. Et cette dame avait dans sa poche un petit prospectus qui annonçait des réunions évangéliques semblables à celle-ci, après-midi. C'était à Toulon. Et il y avait marqué que dans l'après-midi, le jeudi après-midi, il y avait une réunion à la salle Émile Barla à Toulon. C'était le premier local sur Toulon. Et qu'il y avait une mission d'évangélisation. Et si ma mémoire ne me trahit pas, c'était avec M. Scott, pour ceux qui connaissent. Et ma maman, elle a pris ce papier. Non, ça devait être en ce temps-là. C'était, ah oui, c'est le jeudi après-midi qu'on avait vacances. Donc, elle prend ce petit bout de papier, elle rentre à la maison, et puis au bout d'un moment, elle dit, oh, de toute manière, si ça ne peut pas lui faire du bien, si ça ne peut pas lui faire du bien, ça ne pourra pas lui faire du mal. Elle a pris ses 3 enfants, parce qu'elle a 3 garçons, figurez-vous, aussi beaux les uns que les autres. Et hop, moi je me rappelle, tout petit, j'avais la barboteuse encore. Mais vous savez, entre parenthèses, vous savez qu'il y a des gens qui se souviennent de tout. On est parti de Toulon et j'ai commencé mon ministère à l'église de Toulon, mais j'avais 22 ans. Quand je suis parti, j'en avais quoi, 6 de Toulon. Et à la première réunion, Il y a une sœur qui vient me voir et qui me dit « Oh, monsieur Asquith, je suis content de vous revoir. Je vous ai connu en barboteuse. » Ça, c'était pour la petite histoire. Voyez, il y en a qui sont fidèles et qui se souviennent de vous. Faites bien attention, mes frères et sœurs. Il y en a qui se souviennent de vous. Eh oui. Alors, elle est allée à la réunion, elle a assisté à la réunion. Et après, comme on va le faire tout à l'heure, le pasteur, après la prédication, a invité les gens qui le désiraient à mettre leur foi en action et à croire que dans le nom de Jésus, il y a la guérison des corps malades. Alors, elle a amené mon frère à l'imposition des mains. Et il a été instantanément guéri. On s'en est aperçu, bien sûr, à la maison, en arrivant le soir. Il s'est senti mieux, il allait bien. Et puis voilà, gloire à Dieu. Et le Seigneur, lui aussi, a été appelé à servir le Seigneur, comme je le fais cet après-midi. Et il a fallu que sa santé soit bonne, parce qu'il a fait, si je ne me trompe pas, 18 ans de mission à l'île de la Réunion. Donc il a été missionnaire à l'île de la Réunion. Que Dieu soit béni. Quand il pose sa main, il la pose d'une manière merveilleuse. Alléluia. Dieu est bon. Même si parfois, après, il y a quelques secousses qui peuvent arriver dans le corps, surtout quand on a 20 ans. N'est-ce pas, vous qui avez le même âge que moi, là, par là, hein, qu'on a toujours 20 ans, mais que d'un seul coup, on dit « Aïe, ouille, qu'est-ce que c'est ?» Non, ça, c'est le micro, avec ma cravate, excusez. Vous voyez, on a des petites douleurs qui ressortent. On se fait des coups à 20 ans et ils ressortent à 70, ou 80, ou 60. L'usure, mais celui qui croit au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Et dans le ciel, il n'y aura pas de souffrance, parce que dans le ciel, il n'y a pas ni mort, ni souffrance. Tout est parfait, il n'y aura pas de gens handicapés dans le ciel. Tout le monde sera parfait. Le ciel sera parfait, les moments seront parfaits, la joie sera parfaite, et on sera parfait dans le ciel. Alléluia. Donc si vous voulez être parfait, où il faut aller ? Au ciel. Et chacun de nous doit travailler à la perfection. Et je ne peux travailler à la perfection qu'à partir du moment où je donne ma vie au Seigneur Jésus. Savez-vous que les gens qui disent « Moi, j'ai ma religion », ils sont à côté de la plaque, comme on dit aujourd'hui, parce que qu'est-il écrit dans Actes au chapitre 4, verset 12 ? « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de... Ah, j'ai eu peur, je croyais que vous allez me dire Krishna. Non, c'est pas Krishna, c'est pas Mahomet. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. C'est pas Confucius, c'est pas Bouddha. Quand on vous présente Bouddha comme une religion, c'est archi faux. Ce n'est qu'une philosophie humaine. Il n'y a rien de salutaire là-dedans. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Bon, alors je vais être un peu plus précis. Descendez de votre arbre. Et croyez simplement. Croyez simplement. Vous savez que Zachée, il est descendu de l'arbre. Il n'a pas attendu 3 jours, hein. Il a peu dit, oh, ben peut-être la prochaine fois, hein, je viendrai, j'écouterai encore l'évangile, et la prochaine fois, peut-être je donnerai ma vie. Ou alors, oh, mais non, je suis trop jeune, hein, je veux jouir de la vie. Attends, excusez l'expression, mais il faut être fou pour parler comme ça. Parce que vous parlez comme ça parce que vous ne savez pas ce que dit la Bible. Ta vie ne t'appartient pas, elle m'appartient. Ce qui veut dire quand Dieu veut, il coupe la vie. Sans vouloir faire peur à qui que ce soit. Et si c'était demain, est-ce que tu serais sauvé? Est-ce que tu seras descendu de ton arbre? Tu crois qu'aujourd'hui, il est temps de dire demain, un peu plus tard, quand je serai plus vieux, à la retraite, en maison de retraite? Mais il faut être fou pour parler comme cela quand on lit la parole de Dieu. La Bible a dit, c'est aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai souligné bien le nom, aujourd'hui. Et quand Zachée a entendu descendre de ton arbre, il est dit, il se hâta de descendre. Il se hâta, il n'a pas pris le temps de dire, attends, je vais peut-être me casser une jambe, attends Seigneur Jésus, j'arrive, attends 5 minutes, j'arrive. Il se hâta, et moi quand je me hâte, je cours. Enfin, pas longtemps, mais je crois. Oui. Quand je sens qu'il y a un temps difficile. Un dernier petit exemple pour vous expliquer que le temps est court. Si on ne réagit pas, il y a quelques temps en arrière, quelques mois en arrière, le petit-fils, pour ceux qui le connaissent, la Mati, il est allé sortir, il avait 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans. Et il est sorti par mégarde, il a trompé la surveillance des uns et des autres, il est sorti dans le jardin, le portail était ouvert qui donnait directement sur la grande avenue. J'entends ma femme qui crie « Mati, Mati !» Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et « Mati, Mati !» de tous les côtés. D'un seul coup, j'ai pensé, il est parti sur la route. Je suis sorti en courant, je me suis hâté. Et heureusement que je me suis hâté. Il était déjà au milieu de la route et une ambulance qui passait par là s'est arrêtée et a arrêté le gamin. Dieu l'avait gardé. J'avais pris la bonne direction. J'ai pu le recueillir. Et j'ai aussi eu droit à une petite réflexion normale. Il faut surveiller vos enfants. Je dis, ouais, mais là, il n'y a plus rien à dire. Il y avait une erreur quelque part. Des fois, on compte les uns sur les autres, mais il ne faut pas compter les uns sur les autres. Il ne faut compter que sur soi-même. C'est à chacun de nous de rendre compte à Dieu. Par contre, Zachée a reçu Jésus. Et je termine en vous disant ces quelques mots. Il a reçu avec joie. Avec joie. Me laissez 3 minutes. Alors, ma dernière question cet après-midi. Où voyez-vous dans la parole de Dieu que Zachée a été transformé? Vous avez vu? Parce qu'il a été sans... Moi, je suis sûr que je verrai non seulement Noé, mais Zachée là-haut. Enfin, j'espère, dans ma fidélité. Alors, comment se rendons compte que Zachée a été transformé? Il a reçu Jésus, il a parlé avec lui, et là, il va prouver, par ses actes, qu'il est réellement changé. Je vais vous lire, pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Zachée s'est tourné vers Jésus et vers Jésus, et il lui a dit, « Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ça va peut-être vous faire rire ce que je dis là, mais ce que je vais vous dire là. Mais est-ce que vous avez déjà entendu, vous, un percepteur d'impôts, vous dire « je vous rends le quadruple » Donc la loi, c'est la loi, il ne faut quand même pas non plus. Mais il a fallu vraiment que cet homme soit touché pour dire « je lui rends le quadruple ». Vous voyez ? Si j'ai fait tort, il ne dit pas qu'il a fait exprès. Si j'ai fait tort, il rend le quadruple. Vous vous rendez compte, si ça a été le cas, je me mets un petit peu à la place de ceux qui ont reçu la petite bourse. Et là, il riait plus de Zachée. Il devait se dire, mais il est devenu fou depuis qu'il a reçu Jésus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on dit après aux gens qu'on a reçu Jésus dans sa vie, qu'on veut marcher avec Jésus, on vous dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Sors d'ici, enlève-toi de cette secte, va ailleurs, mais va jouer par là, va au bal, va ceci, va cela. Mais non, j'ai donné ma vie à Jésus. Je veux vivre avec Jésus. Je veux aller au ciel. Je veux marcher dans ses voies. Alléluia. Alors, dans ces cas-là, il faut dire simplement, pense ce que tu veux, c'est chacun pour soi, pour le salut. Donc toi, je te dis, je suis heureux d'être avec Jésus, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, je te dis de faire comme moi, mais tu n'es pas obligé. Chacun supportera le poids de sa décision. Pour moi, j'ai donné mon cœur à Jésus et je suis heureux parce que je sais qu'un jour mes yeux le verront. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors accepte Jésus, deviens un citoyen de la Cité Sainte et marche avec Jésus-Christ. Amen. Te disons merci Seigneur pour ta